Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la sainte sourate Qari'a. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaitanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Le coup. Qu'est-ce que le coup? Et qui te dira de ce qu'est le coup? Le jour où les gens seront comme papillons éparpillés et les montagnes comme laine cardée, alors, quant à celui dont les balances seront lourdes, alors il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont les balances seront légères, alors sa destination est une fosse. Et que sais-tu de ce qu'elle est? Un feu ardent.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes samedi 10 Azar 1403 du calendrier iranien, 30 novembre 2024. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Aucune base légale pour suspendre les mandats d'arrêt contre Netanyahou et Gallant, selon la Cour pénale internationale. Résurgence du terrorisme en Syrie. Complot américano-sioniste selon la République islamique d'Iran. Une journée tragique à Gaza sous les bombardements israéliens. Et l'Iran met au point une technologie d'imagerie par satellite à super résolution. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a qualifié la résurgence du terrorisme takfiriste dans le nord de la Syrie de résultat d'un projet américano-israélien, soulignant que cette évolution faisait suite aux défaites du régime israélien face à la résistance au Liban et dans les territoires palestiniens. Lors d'une conversation téléphonique avec son homologue syrien, Bassam al-Sabah, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a décrit cette évolution indésirable comme un projet américano-sioniste qui a suivi les défaites du régime israélien face au mouvement de résistance au Liban et dans les territoires occupés palestiniens. Araghchi a également souligné que la Syrie a efficacement contré la menace du terrorisme. Araghchi a réitéré le soutien continu de la République islamique d'Iran au gouvernement, à la nation et à l'armée syrienne dans la lutte contre le terrorisme et la protection de la sécurité et de la stabilité régionale. La Russie a dénoncé les attaques terroristes en Syrie qu'elle considère comme une violation de la souveraineté du pays. Le Kremlin a déclaré qu'il considérait l'attaque comme une atteinte à la souveraineté de la Syrie et qu'il soutenait l'établissement le plus rapide possible d'un ordre constitutionnel dans la région. Nous souhaitons que les autorités syriennes rétablissent l'ordre dans le pays le plus rapidement possible, a indiqué le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov lors d'une conférence de presse. La Syrie est en combat contre les terroristes soutenus par l'étranger depuis 2011, Damas accusant les pays occidentaux et leurs alliés régionaux d'aider les groupes terroristes. La Russie, aux côtés de l'Iran, a aidé les forces syriennes dans les combats à travers le pays, en proie au conflit, principalement en fournissant un soutien aérien aux opérations terrestres contre les terroristes soutenus par l'étranger. Le directeur du Centre iranien de recherche spatiale a fait part de la production réussie d'images par satellite super résolution avec une résolution de 35 à 45 cm délivrée des données collectées par le satellite Rayam. Hassan Salarié a souligné qu'il s'agit de la première fois que de telles images sont produites en collaboration avec des entreprises basées sur le savoir. Il a expliqué que les images ont été générées à l'aide d'une méthode de rupture de pixels et de technologies de traitement avancées, éliminant ainsi le besoin de données auxiliaires. Cette méthode avancée permet de produire des images de haute qualité qui peuvent répondre à de nombreux besoins nationaux à l'intérieur du pays, a-t-il déclaré. Monsieur Salarié a qualifié cette étape de précieuse et importante pour le développement de la technologie spatiale iranienne et d'une avancée significative dans la production d'images par satellite de haute précision. Selon le directeur du Centre iranien de recherche spatiale, ces images offrent des avantages uniques, notamment dans la gestion des ressources naturelles, l'agriculture, l'urbanisme et la surveillance environnementale. Et enfin, ce samedi 30 novembre a marqué une nouvelle journée tragique pour les Palestiniens de Gaza, alors que les bombardements israéliens se poursuivent sans relâche, infligeant des pertes humaines considérables sur un territoire déjà assiégé. Dans le sud de Gaza, un bombardement israélien a touché un véhicule près de Khan Younes, tuant au moins 5 personnes, parmi lesquelles des membres de l'organisation humanitaire World Central Kitchen. Au centre de la bande de Gaza, les frappes aériennes ont causé la mort d'au moins 7 Palestiniens, blessant de nombreux autres dans des bâtiments résidentiels. La situation est tout aussi alarmante dans le nord, où une attaque par drone près de l'école Halima a fait au moins une victime et plusieurs blessés. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. Dans le cadre des enquêtes internationales sur des crimes de guerre israéliens, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a déclaré que la tentative d'Israël de suspendre les mandats d'arrêt émis contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et l'ancien ministre des Affaires étrangères, Yoav Gallant, devrait être rejetée et que la procédure d'appel devrait être interrompue. Dans un document publié sur le site officiel de la Cour pénale internationale, Khan a exhorté la chambre d'appel du tribunal, basée à La Haye, à ne pas donner suite à la demande formulée par le régime de Tel Aviv. Il a également souligné que cette demande ne répond pas aux critères juridiques établis par les règles de la Cour pénale internationale. Par ailleurs, le procureur a précisé que la décision contestée par Israël ne traite pas de la recevabilité, une exigence clé pour de tels appels, mais concerne plutôt des questions procédurales liées à l'enquête en cours. Karim Khan, a déclaré que la décision indique à Israël qu'il ne peut pas déposer une contestation de compétence avant que la Cour n'ait pris une décision en vertu de l'article 58 du statut de Rome. Il soutient également qu'une telle contestation pourrait potentiellement être formulée une fois cette condition satisfaite. La décision n'est pas une décision relative à la compétence et elle n'est donc pas directement susceptible d'appel en vertu de l'article 82 du statut, a-t-il affirmé. En conséquence, Karim Khan a renforcé sa position en recommandant que la procédure d'appel par Israël soit abandonnée, ainsi que la demande de suspension des mandats d'arrêt pendant que la Chambre préliminaire continue d'examiner la même question. En tout état de cause, il n'existe aucune base légale pour suspendre les mandats d'arrêt émis par la Chambre préliminaire, a déclaré le procureur. Plus tôt cette semaine, Israël a déposé un recours direct auprès de la Chambre d'appel, alléguant que l'enquête et les mandats d'arrêt étaient entachés d'irrégularités de procédure. Israël a également demandé la suspension des mandats d'arrêt en attendant la décision en appel. Parallèlement, Israël a interjeté appel auprès de la Chambre préliminaire qui a émis les mandats d'arrêt. La semaine dernière, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre Netanyahou et Gallant, les accusant de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en rapport avec leur action à Gaza. Conformément au règlement de la Cour pénale internationale, le tribunal basé à La Haye ne mène pas de procès par coutumance et les accusés doivent être présents pour que les procédures puissent se dérouler. Comme le tribunal ne dispose pas de police pour faire respecter ses mandats, il dépend de ses États membres pour mettre en œuvre ses ordonnances. La Maison-Blanche a rejeté les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Netanyahou et Gallant. Soutenu par les États-Unis et leurs alliés occidentaux, Israël a lancé une offensive contre Gaza le 7 octobre 2023, après que le mouvement de résistance palestinien, Hamas, a mené l'opération Tempête d'Al-Aqsa contre le régime israélien en réponse à des décennies de violences et de destruction perpétrées par l'entité occupante contre les Palestiniens. Les conséquences humanitaires de ce conflit sont dramatiques, avec des rapports faisant état de plus de 44 363 Palestiniens tués, dont une majorité de femmes et d'enfants, et de 105 070 blessés. Des milliers d'autres sont également portés disparus ou présumés morts sous les décombres.
Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs et auditrices, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette émission. Nous allons évoquer la trêve qui a été entrée en vigueur ce mercredi à 4 heures heure locale, 4 heures du matin. hors local du Liban entre le Hezbollah et Israël après des mois de combats intenses et de tensions et d'agressions israéliennes contre le Liban. Nous allons évoquer les détails de cette trêve qui a été en fait signée et accordée entre le Hezbollah et Israël, le régime sioniste, avec nos deux invités d'honneur. Avant de vous les présenter et de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder un reportage qui a été préparé par mes collègues à ce sujet et on revient tout de suite après.
Un cessez-le-feu entre le régime israélien et le Liban est officiellement entré en vigueur mercredi 27 novembre à 4h du matin heure locale, en vertu de l'accord convenu plus tôt mardi soir entre le régime et le Hezbollah. Mardi, le président américain Joe Biden a annoncé que les gouvernements d'Israël et du Liban ont accepté une proposition visant à mettre fin à la guerre, qualifiant cette évolution de bonne nouvelle. Il a déclaré qu'il s'était entretenu avec les premiers ministres du régime israélien et du Liban et qu'il était heureux d'annoncer que leurs gouvernements ont accepté la proposition des États-Unis de mettre fin au conflit dévastateur entre Israël et le Hezbollah. Biden a confirmé que dès que le cessez-le-feu entrera en vigueur, il mettra définitivement fin aux hostilités, remerciant le président français Emmanuel Macron pour son partenariat pour atteindre ce moment. Pourtant, avant l'entrée en vigueur de la trêve, les deux parties avaient encore poursuivi leurs opérations militaires. Israël a notamment frappé un bâtiment au cœur de Beyrouth dans la nuit de mardi à mercredi, puis ordonné l'évacuation de zones de centre et de la banlieue de la capitale libanaise. De son côté, le Hezbollah libanais a déclaré avoir lancé des drones sur des cibles militaires sensibles à Tel Aviv mardi soir, après des frappes israéliennes meurtrières à Beyrouth. En réponse au ciblage de la capitale Beyrouth et au massacre commis par l'ennemi israélien contre des civils, le Hezbollah a lancé des drones sur plusieurs cibles militaires sensibles dans la ville de Tel Aviv et sa banlieue, a déclaré le groupe dans un communiqué. Le premier ministre libanais Najib Mikati a appelé la communauté internationale à travailler rapidement pour mettre en œuvre le cessez-le-feu et mettre fin à l'agression israélienne. L'agression hystérique de ce soir contre Beyrouth confirme que l'ennemi ne respecte aucune loi, a-t-il déclaré. Le ministre israélien d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, a déclaré mardi que l'accord entre Israël et le Liban ne permettait pas d'atteindre l'objectif de retour de colons du Nord dans leur foyer en toute sécurité. Le chef de l'opposition, Yair Lapid, a déclaré que le cabinet de Netanyahou était entraîné dans un accord avec le Hezbollah. Actuellement, les villes du Nord sont détruites, la vie des habitants s'est effondrée et l'armée est épuisée, a-t-il dit. Le Hezbollah avait ouvert un front contre Israël le 8 octobre 2023 au lendemain de l'attaque barbare du régime israélien contre la bande de Gaza. La campagne de bombardements israéliens visant le groupe de résistance libanais avait finalement débuté le 23 septembre 2024 et les opérations au sol dans le sud du pays le 30 septembre. Selon les autorités libanaises, au moins 3823 personnes ont été tuées au Liban au total depuis octobre 2023, dont la plupart ces dernières semaines. Les hostilités y ont déplacé quelque 900 000 personnes selon l'ONU. Côté israélien, 82 militaires et 47 civils ont été tués en 13 mois dans les affrontements avec le Hezbollah selon les autorités. Réagissant aux évolutions, la diplomatie iranienne a salué l'accord de cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël, réitérant le soutien indéfectible de la République islamique au gouvernement, au peuple et à la résistance islamique au Liban.
Voilà, vous avez entendu et vu le reportage. Effectivement, nous allons évoquer les détails de ce cessez-le-feu avec nos deux invités, deux experts. Maître André Chami, juriste international, Bernard Cornu, géopolitologue. Merci à vous deux d'être avec nous pour cette émission. Maître Chami, on commence avec vous, si vous voulez bien, concernant ce cessez-le-feu. Dans un premier temps, j'aimerais avoir votre point de vue général en ce qui concerne cette trêve conclue entre le régime sioniste et le Hezbollah.
Vous savez, je disais l'autre jour que toute guerre a une fin. La question qui se pose systématiquement pour chaque guerre, comment préparer la fin d'une guerre? Et là, en réalité, les Israéliens ont eu une difficulté majeure dans cette affaire-là, si je me suis ainsi, c'est qu'ils n'osaient pas fixer des objectifs pour ne pas justement s'avouer vaincus en cas de non-réalisation des objectifs. Mais en même temps, il fallait quand même qu'ils vendent, entre guillemets, cette guerre à leur population. C'est la raison pour laquelle il y avait quand même trois choses qui ont été annoncées. La première, c'est la destruction du Hezbollah. La deuxième chose, c'est de faire cesser ou détruire les capacités militaires du Hezbollah. Et troisièmement, c'est de permettre le retour des occupants ou des colons dans les localités qui se trouvent le long de la frontière nord, c'est-à-dire du côté sud du Liban. Et aucun de ces objectifs n'a été réalisé parce que malgré les pertes qui sont reconnues au niveau du commandement militaire et politique du côté du Hezbollah, le Hezbollah a continué de fonctionner et a, malgré 10 jours, entre guillemets, d'hésitation qui ont été reconnus par l'actuel secrétaire général de Hezbollah, tout a été repris très rapidement au niveau du commandement militaire et au niveau du commandement politique, à tel point que les Israéliens ont fini par s'en prendre aux porte-parole du Hezbollah. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus d'autres objectifs que de s'en prendre à un civil qui avait qu'une seule mission, c'est de faire état de la, on va dire, des annonces faites par le Hezbollah. Le deuxième objectif, c'était la destruction des capacités militaires et plus particulièrement des capacités en missiles de longue portée et surtout ce qu'on appelle des missiles de haute précision que détient le Hezbollah. Là également, il y a un échec total parce que jusqu'au dernier moment, ces missiles et ces drones ont continué de frapper non seulement le nord de l'entité sioniste, mais jusqu'à la région de Gosh Dan, c'est-à-dire les alentours de Tel Aviv, je ne parle pas de Haïfa, de Haka, de Safat, c'est-à-dire au-delà de 140 km loin de la frontière avec le Liban. Le troisième objectif, le retour des colons dans la zone nord de l'entité sioniste. Aucun colon n'a pu revenir dans cette zone-là, alors que vous remarquerez dès ce matin, tôt d'ailleurs, à partir de 4h30 du matin, les habitants du sud du Liban ont entrepris leur voyage de retour en direction du sud pour regagner leur village, leur ville et surtout leur domicile, ce qui n'était même pas envisagé par les Israéliens, à tel point qu'aujourd'hui, le long de la frontière, il y a encore des postes israéliens qui subsistent parce qu'il faut se retirer, mais pour préparer leur repli, ils prennent des dispositions militaires. Et bien, ces positions-là se trouvent quasiment en confrontation, sinon en contact direct avec la population qui regagne ce terrain-là, alors que les Israéliens ne s'y attendaient pas. Et du coup, comme cela s'est passé en 2006, c'est l'afflux de la population qui pousserait indiscutablement les Israéliens à quitter leur dernier poste pour aller de l'autre côté de la frontière parce que il prendrait énormément de risques à rester en contact avec la population locale parce que cette population constituerait en soi un danger pour le soldat israélien, ce à quoi ils ne peuvent pas s'exposer parce que, évidemment, il y a une peur mortelle de continuer d'être au contact avec la population locale parce que pour eux, cette population est une population des Hezbollah et évidemment, chaque même vieillard, chaque paysan, chaque femme constituerait pour le soldat israélien un risque qu'il convient d'éviter. Voilà aujourd'hui quelle est l'image. Mais derrière cette image-là, et j'en aurai terminé, quel est l'objectif derrière qui pourrait s'annoncer du côté israélien? Il n'y a rien. C'est la raison pour laquelle la presse israélienne avoue aujourd'hui qu'il y a une victoire non contestée de la part du Hezbollah. Il y a un échec total de la politique et de la stratégie israélienne de l'autre.
Merci pour les explications, Bernard Cornu. Vous avez entendu l'analyse et le point de vue de Maître Chami. notamment le dernier point qu'il a évoqué en ce qui concerne un échec non avoué du régime sioniste et une victoire pour l'axe de la résistance, notamment le Hezbollah. Comment interprétez-vous, dans un premier temps, ce cessez-le-feu?
Oui, je pourrais répéter cette phrase d'après la première guerre européenne, mort ou état victoire. C'est vrai que l'État israélien, son armée n'ont pas rempli tous leurs objectifs proclamés, mais ils ont détruit énormément de bâtiments, encore endommagé l'économie libanaise, fait des déplacements énormes de population, on parle d'un million de personnes, forcé les réfugiés syriens du Liban à repartir en Syrie. Tout ceci est catastrophique pour le Liban et donc le cessez-le-feu, négocié par les Américains avec l'aide aussi de la France, est utile à condition qu'il tienne, mais il ne suffit pas à régler les problèmes du Moyen-Orient et il n'arrête pas encore la guerre commise par Israël et son armée envers Gaza et les énormes destructions qui continuent parce qu'effectivement le Liban a pris plus de place dans les médias occidentaux. Et pour aussi les diplomates occidentaux qui se préoccupent plus du Liban que de l'État, le futur État palestinien à créer, et surtout la situation à Gaza qui est catastrophique, qui est un génocide vraiment constitué. Il faut souligner les efforts de la justice internationale, le courage qu'ils ont eu d'enfin confirmer les mandats d'arrêt demandés par le procureur il y a déjà plusieurs mois. Je voudrais aussi d'ailleurs ici saluer la mémoire de l'avocat français Lionel Gilles de Vert qui vient de décéder. Il a été une cheville ouvrière très active pour ses dossiers auprès de la Cour pénale internationale et de la Cour internationale de justice au profit de l'État de Palestine qui en avait le droit depuis 2014. Donc tout ceci contribue à des efforts diplomatiques, des efforts de paix. Mais ce n'est pas encore la paix, juste au Moyen-Orient, tant qu'il n'y a pas un État palestinien et que tous les colons sont repartis ou acceptés et que le désarmement de l'arrêt de tous les combats au Moyen-Orient permettra au pays de se développer à nouveau, aux sociétés de se développer. Donc j'ai noté que le Hezbollah a dit que malgré l'accord, il continuera à combattre Israël. Il n'a pas dit comment, donc ça peut être déjà un combat politique essentiel qui va durer tant qu'il n'y a pas une paix juste au Moyen-Orient, ça c'est sûr. Et donc il faut aussi espérer que les efforts diplomatiques de la présidence Biden, qui va durer encore à peine deux mois désormais, seront effectifs pour assurer une paix juste par une résolution sous le chapitre 7 de la charte, qui est le seul moyen d'assurer une paix juste, acceptable au Moyen-Orient, qui dure.
Mmh. Merci pour les explications et les détails. Maître Chami, en ce qui concerne la durée et en fait l'endurement de ce cessez-le-feu et de cette trêve, M. Cornu évoque un point, il dit qu'on n'est pas encore arrivé à une paix dans la région jusqu'à ce qu'il y ait un État palestinien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point? À votre avis, quelle serait la prochaine étape après ce cessez-le-feu?
Ben, pour l'instant, le cessez-le-feu semble être pour une durée déterminée de 60 jours, avec une possibilité de prolongation pour finaliser l'accord et remettre en place, si j'ose dire, les termes de la résolution 1701. Je précise au passage que les Israéliens n'ont jamais respecté la résolution 1701, alors qu'ils prétendent que les Libanais ne l'ont pas respectée. Depuis 2006 jusqu'à maintenant, les intrusions israéliennes, les attaques israéliennes, le survol du territoire libanais, les opérations sécuritaires, d'ailleurs, on a vu l'histoire des beepers, ça fait partie des actes de guerre préparés et prémédités en amont, c'est-à-dire c'était par définition une opération militaire et sécuritaire au profit de l'entité sioniste et bien entendu qui visait le Hezbollah, en tout cas les combattants de l'axe de la résistance. Tout cela démontre qu'il n'y a pas de garantie du côté israélien par rapport au respect des engagements pris et encore moins du droit international. Par conséquent, comme l'a rappelé M. Cornu, il y a un retour forcément à un moment donné au droit international. Le retour vers le droit international, c'est une prise de position de la part de la communauté internationale par rapport à l'existence d'un État palestinien, mais l'État palestinien, encore une fois, dans quelle limite, dans quelle frontière ? Dire que l'État palestinien, ça va être la Cisjordanie disloquée, amputée et désossée, ce ne serait pas sérieux. Gaza, que l'on essaye de vider de sa population, ça ne serait pas non plus sérieux, pour ne pas dire, ça serait criminel, et ce ne sont même pas n'importe quel crime, parce que ce sont des crimes qui sont dénoncés par la Cour internationale de justice et par la Cour pénale internationale. Or, quand on voit les projectionnistes à ce sujet-là, évidemment, l'extermination et le nettoyage ethnique sont dans les valises, si j'ose dire, des sionistes pour se débarrasser des Gazaouis et pour se débarrasser des habitants de la Cisjordanie. La première leçon de cette guerre qui n'est pas encore terminée du côté Gaza et du côté de la Cisjordanie, c'est d'abord de remettre à jour l'application du droit international, c'est-à-dire protéger en avant la population locale. Une fois qu'on a assuré la protection de cette population, après on passera au stade supérieur, c'est-à-dire quelle est l'autodétermination qui pourrait être accordée et dans quel territoire. Le respect du droit international, encore une fois, ce n'est pas la consécration de l'occupation des territoires de 67, mais non plus des territoires occupés depuis 48, parce que les territoires depuis 48, c'est une occupation illicite. Malgré la reconnaissance de l'État d'Israël, mais l'État d'Israël, c'est dans quelles frontières ? Et c'est ça la question, puisque c'est le seul État au monde qui n'a pas de frontières parce que cet État n'a pas de constitution. Dans chaque État, vous avez une constitution qui fixe les limites de la frontière ou des frontières. C'est le seul État au monde qui n'a pas de frontières. Pourquoi ? Parce que c'est un État, présumé État, qui est fondée sur l'expansion et l'extension de son territoire. Tant qu'on n'a pas mis un terme à cette situation-là, évidemment, nous ne pourrons pas parler de négociations sérieuses. Les Égyptiens ont cru pouvoir fixer ces limites-là dans le cadre des accords de Camp David. Le Liban, son territoire est connu, mais de l'autre côté, il y a toujours une occupation du territoire libanais. Du côté syrien, c'est la même chose. Malgré cela, il y a eu l'annexion du Golan qui a été consacrée par les Américains. Il faut qu'un terme soit mis avec force par la communauté internationale. Et la communauté internationale, aujourd'hui, est caractérisée par la lâcheté face aux Américains qui valident le projet sioniste à cause justement des sionistes qui se trouvent au sein des États-Unis, parce que le sionisme n'est pas uniquement un sionisme juif, c'est un sionisme chrétien, mais même il y a du sionisme arabo-musulman, parce que quand vous prenez les positions de certains pays arabes qui ont voulu, à travers les accords d'Abraham, valider la politique expansionniste des Israéliens, évidemment, vous avez aujourd'hui consacré le sionisme musulman, le sionisme arabe. Par conséquent, le sionisme n'a pas de religion, n'a pas d'identité. Et tant qu'on n'a pas mis un terme au projet sioniste, la guerre continuera de subsister, en tout cas d'être couvée sous les cendres. Mais à un moment donné, ça peut s'embraser et l'embrasement peut concerner toute la région. Et c'est cela le risque qui menace toute la région-là, tant que la communauté internationale n'aura pas pris des positions claires par rapport à la protection de la population, par rapport à la protection des territoires et par rapport à une étude réelle en droit international sur les droits du peuple palestinien, notamment le droit de retour qui est prévu par les résolutions de l'ONU et qui ne sont toujours pas appliquées. Il me semble que c'est la résolution 197 qui n'est toujours pas appliquée, alors que le droit de retour est un droit acquis à l'ensemble des Palestiniens qui se trouvent à l'extérieur du territoire palestinien, notamment au Liban, en Syrie, en Jordanie et ailleurs.
Merci pour les détails. Bernard Cornu, est-ce qu'à votre avis, comme le dit Maître Chami, la communauté internationale pourrait faire respecter les droits internationaux au régime sioniste, pourrait, avec ses pressions exercées contre le régime sioniste et ses autorités, en fait, faire assurer la sécurité de la population locale? Est-ce que tout ceci, avec la pression de la communauté internationale, serait possible dans un avenir peut-être pas très proche, mais quand même dans un avenir qu'on pourra voir.
Disons, ce qui est positif dans cet accord, c'est que les États-Unis ont fait pression sur Israël pour ne pas accepter un diktat israélien qui voulait explicitement ne pas que la France n'intervienne pas dans le comité de surveillance de l'application de l'accord. La France est dûment impliquée dans cet accord-là pour des raisons diverses, mais ce qui est important, c'est que les États-Unis n'ont pas accepté, pour une fois, ce diktat israélien, cette condition israélienne. Sur le plan négatif, je voudrais rappeler aussi, sur la fragilité de cette trêve, que lors d'une trêve en 1948, organisée par les Nations Unies lors de la guerre israélo-arabe ou israélo-palestinienne, complétée par des armées arabes, lors de cette trêve, des miliciens juifs, qu'on appelait terroristes à l'époque, ont assassiné le médiateur qui était un diplomate suédois, le comte Bernadotte. Cette fois-ci, le médiateur est une fois de plus pour les Américains un juif américain, sans doute peut-être d'une nationalité, je ne sais pas, ce n'est pas important. Donc il y a un peu moins de chances qu'il soit assassiné. Mais il y a toujours des gros risques que l'armée israélienne ou son gouvernement, ses ministres extrémistes, dont celui qui a refusé de voter positivement pour cet accord hier, risque aussi de faire capoter cet accord. Sur le plan, disons, positif, il y a cette période critique de 2 mois du président Biden qui voudra essayer de faire un effort pour rester dans l'histoire et il a dit lui-même qu'il continuera à œuvrer pour un cessez-le-feu à Gaza. Donc la France est dans le coup. Et je voudrais aussi, sur le plan positif, dire que ces jours-ci, la justice en France et en Europe a cassé des volontés de certains Français favorables à Israël d'essayer d'interdire une conférence de Madame la députée européenne, Rima Assad, une Palestinienne née en Syrie, qui est venue d'un international qui voulait faire une conférence d'une part à Sciences Po Paris, donc cela est reporté parce que la décision d'interdiction a été cassée, et aussi à Strasbourg aussi demain, je crois. Donc, encore une fois, en hommage à Gilles Devers, qui a dit que tôt ou tard, la justice internationale prévaudra, sera efficace. C'est ça l'enjeu, c'est qu'effectivement, tous les moyens de la justice internationale soient là pour contrer cet expansionnisme sionisme qui est terrible, qui remonte déjà au début du siècle, qui est soutenu par les pétroliers américains parce qu'ils voulaient depuis 100 ans un contrôle sur cette région du Moyen-Orient où il y a du pétrole pas cher et du gaz pas cher à produire et que sans ce contrôle pour empêcher l'émergence d'États démocratiques indépendants, les États-Unis perdraient le contrôle d'industrie mondiale du pétrole, les anglo-saxons en général. Donc ceci c'est l'enjeu fondamental, c'est un enjeu de l'énergie que je connais bien et qui explique en fait ce soutien massif de la puissance américaine à l'État israélien pour lui fournir des munitions qui lui a permis d'entretenir cette guerre à Gaza. Et encore une fois, la trêve de 48 a été acceptée par les milices juives de l'époque, les dirigeants du Yishuv juif en Palestine, parce qu'ils avaient besoin de se refournir en armes. Et donc, on a aussi ce risque que cette trêve ait été acceptée parce que l'État israélien et son armée avaient besoin de renforcer leurs forces, de reposer leur armée, comme ça a été dit d'ailleurs. Donc il faudra veiller, effectivement, l'importance de ce comité de surveillance qui comprend les États-Unis, la France et les Nations Unies, en plus des 2 pays concernés, Liban et Israël. C'est très important que cette surveillance soit très précise, méticuleuse et forte.
Merci infiniment. Alors, Bernard Cornu, géopolitologue, maître André Chamil, juriste international, est avec nous pour cette émission. Je vous remercie toutes et à tous d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Je vous dis donc au revoir et à très bientôt.
Chers amis auditeurs, bienvenue à cette émission qui traite des sujets économiques. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. les capacités d'autosuffisance de l'Iran face aux sanctions. Alors que le président élu américain Donald Trump envisagerait d'augmenter considérablement les sanctions contre l'Iran et de limiter ses ventes de pétrole, il est essentiel de prendre des contre-mesures appropriées en mobilisant les capacités indigènes du pays dans tous les domaines. Les sanctions font partie de la stratégie agressive des États-Unis envers l'Iran depuis plus de 4 décennies, obligeant le pays à apprendre à s'adapter et à continuer en puisant dans ses ressources locales et en exploitant des sources alternatives. Mais ce qui est plus important que d'identifier et d'utiliser ses capacités, c'est de savoir comment les gérer de manière efficace et responsable face aux sanctions. En d'autres termes, la stratégie adoptée par les pouvoirs décisionnels, politiques, législatifs et exécutifs pour faire face à une situation hostile est d'une importance primordiale. Avant d'aborder les capacités de l'Iran, il convient de mentionner que la politique hégémonique et autoritaire des États-Unis et de l'Occident envers l'Iran et leur recours aux sanctions économiques pour lui nuire découle d'un grave conflit d'intérêts entre eux. L'élément central de cette inimitié est l'islam, envers lequel la partie adverse est intrinsèquement et substantiellement hostile et intolérante. Après la révolution islamique de 1979, l'Occident a lancé une sorte de guerre froide, complexe et cachée contre l'Iran. Mais l'antagonisme est devenu progressivement plus prononcé et flagrant, prenant des dimensions culturelles, politiques et sociales. Ces dernières années, le monde a vu la menace répétée par l'Occident d'une option militaire abandonnée à mesure que la puissance de dissuasion de l'Iran a pris de l'ampleur sous la direction du leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, et avec le soutien du peuple. Les risques injustifiés associés à l'option militaire ont convaincu les dirigeants occidentaux d'opter pour des mesures économiques coercitives, au grand dam des lobbies pro-israéliens et de certains cercles bellicistes encore favorables à une confrontation militaire. Les planificateurs et les décideurs politiques doivent donc fermer les écoutilles face aux nuages sombres qui s'amoncellent au-dessus du secteur économique iranien. Au cours des dernières années, l'Ayatollah Khamenei a clairement identifié l'économie comme un domaine stratégique qui requiert l'attention particulière des responsables de l'État, des économistes et du grand public en introduisant des concepts tels que djihad économique et production nationale dans le discours économique du pays. Grâce à la direction et à la sensibilisation et au soutien du peuple, la nation iranienne a jusqu'à présent résisté aux sanctions les plus lourdes de son histoire et a transformé les menaces en opportunités d'autosuffisance et d'autonomie. Aujourd'hui, les fruits de cet esprit et de cette transformation sont évidents dans la défense de l'Iran et dans sa grande puissance de dissuasion qui fait l'objet d'une administration et d'un examen minutieux au niveau mondial. Toutefois, les sanctions ont également mis en évidence les failles de notre armure économique, les décideurs politiques et stratèges occidentaux utilisant tous leurs moyens pour tirer profit de cette faiblesse et nuire à l'Iran. Cela signifie qu'il n'y a pas de place pour la complaisance de la part des responsables de l'État qui doivent traiter les sanctions comme une question stratégique. Les sanctions en tant que telles, en tant que facteurs destructeurs et perturbateurs, ne revêtent pas une importance capitale. Ce qui est important, c'est la manière de les gérer et de les traiter. Si nous avons une bonne idée des causes, des méthodes et des exemples de sanctions, les chances de les contenir et à terme de les neutraliser sont très élevées. Ensuite, nous pouvons agir pour transformer la menace en opportunité, comme nous l'avons vu dans notre secteur de la défense. L'objectif principal des sanctions économiques est de cibler directement la population et de la monter contre l'establishment. Dans son discours, le guide suprême de la révolution islamique a souvent pointé du doigt le peuple, le capital de la République islamique, qui a déjoué une multitude de complots en participant aux initiatives révolutionnaires et en les soutenant. Si ce capital perd d'espoir dans la gestion macroéconomique, l'establishment sera confronté à une grave menace. Le leader a également cité la connaissance de l'ennemi et du potentiel du pays comme les principales priorités qui devraient s'accompagner de l'instauration de la confiance du public quant à la capacité à surmonter les sanctions. La question qui se pose est de savoir comment les gens sont amenés à acheter de manière panique certains articles ou comment ils développent une méfiance ou un manque de foi dans la gestion macroéconomique. Actuellement, l'ennemi tente constamment de tirer le meilleur parti de ce point faible, notamment en mettant en évidence la négligence, l'ignorance et l'inattention de certains gestionnaires et décideurs. Ce qu'il faut, c'est garantir que l'économie iranienne repose sur une base solide, reposant sur des capacités endogènes capables de s'auto-entretenir malgré les sanctions les plus sévères. En d'autres termes, si le pays traverse une crise économique et une récession où ses moyens de subsistance vitaux sont perturbés, il existe suffisamment de capacités au sein du pays pour relancer son économie et la soutenir. Certaines de ces capacités comprennent l'étendue territoriale et la profondeur stratégique de l'Iran, la diversité climatique et les dons de Dieu, la diversité et l'abondance des mines, la légion de ressources humaines instruites, qualifiées et semi-qualifiées du pays, ainsi que ses énormes ressources en hydrocarbures. Les exportations iraniennes non pétrolières ont augmenté de 18% en glissement annuel sur 8 mois jusqu'à la fin novembre. Le Bureau des douanes iraniens, IRISEA, indique que les exportations non pétrolières du pays ont augmenté de 18% sur un an au cours des 8 mois précédents le 20 novembre. Le directeur général de l'IRISEA, Farhoud Askari, a déclaré mardi que l'Iran avait exporté pour 38 152 milliards de dollars de biens et de matières premières au cours des 8 mois précédents fin novembre. Il a déclaré que les expéditions d'exportation avaient également augmenté de 14,66% en termes de volume au cours de la même période pour atteindre 103 558 millions de tonnes métriques. Ces chiffres ont montré que les produits pétrochimiques ont représenté 29,79% du total des exportations non pétrolières de l'Iran au cours des 8 mois jusqu'à fin novembre. Les exportations ayant généré des revenus d'une valeur de 17,5 milliards de dollars. Les principaux produits d'exportation comprenaient le gaz de pétrole liquéfié, GPL, à 5,1 milliards de dollars, le propane liquéfié à 2,2 milliards de dollars et le méthanol à 1,7 milliard de dollars, selon les chiffres. La Chine a été le plus gros acheteur d'exportations iraniennes au cours de la période avril-novembre avec des achats d'une valeur de 9,9 milliards de dollars, suivi de l'Irak avec 8,3 milliards de dollars et des Émirats arabes unis avec 4,8 milliards de dollars, selon les chiffres de l'IRISEA. Les chiffres publiés plus tôt, ce mois-ci, ont montré une augmentation importante des exportations non pétrolières de l'Iran en octobre, d'un mois sur l'autre, grâce à une augmentation des expéditions livrées à l'Irak voisin. Farouk Askari a déclaré que les importations en Iran avaient également augmenté pour atteindre 45 127 milliards de dollars au cours des 8 mois jusqu'à fin novembre. Il a ajouté que les Émirats arabes unis, qui sont le plus grand centre de réexportation dans la région du Golfe Persique, ont été le plus grand fournisseur de biens et de matières premières à l'Iran au cours de la période, avec des expéditions d'une valeur de 13,6 milliards de dollars, suivi de la Chine avec 11,5 milliards de dollars et de la Turquie avec 7,8 milliards de dollars. L'Iran a importé pour 4,6 milliards de dollars de lingots d'or standard, 1,8 milliard de dollars de maïs fourragé, et 1,5 milliard de dollars de téléphones portables au cours des 8 mois jusqu'à fin novembre, encore déclaré le responsable de l'IRICEA. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine.